Bonjour, bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui autour de la table, Albert Algou.
Bonjour.
Dom Villa.
Bonjour.
Marina Rollman.
Bonjour.
En deuxième heure, nous accueillerons Tanguy Pastureau. Et je suis avec Leïla Kadour-Boudani.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. Et notre invité dans la bande originale aujourd'hui est Pascal Demolon.
Bravo.
Pascal.
Bonjour Pascal, accueil en fanfare, comment ça va ce matin?
Pas trop mal, j'ai connu pire.
Ouais.
C'est plus comme dans les années 70, mais je m'en sors pas mal. Je suis venu avec mes chaussures, mon pantalon, donc je me dis que voilà j'ai
comment
connu pire.
Parce que d'habitude vous venez sans
c'est ça m'est arrivé, ouais, ouais.
Ah, okay. Et en slip.
Et ben, oui, en slip.
On n'a pas eu de bol finalement.
Il y a eu des jours difficiles.
Vous venez nous parler du Rire de ma mère, un très beau film écrit et réalisé par Colombe Savignac et Pascal Ralit, qui sera en salle le 17 janvier, donc la semaine prochaine. Un très très beau film. Comment est-ce qu'on peut en parler, Pascal Demolon, sans dévoiler finalement quelque chose d'important pour le téléspectateur, à part... je pense qu'on peut parler concrètement du sujet, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
On peut, oui, oui.
On peut parler de ce petit garçon, votre fils.
De ce petit garçon, de son papa, de sa maman, de sa nouvelle compagne. C'est comme parler de la vie, c'est comme parler de tout, je dirais. Il faut pas en avoir peur.
Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon, Adrien, qui est un petit gamin un peu timide, qui a donc ses parents séparés, qui partage son temps entre papa et maman, et qui découvre, qui prend conscience que sa mère est malade, et que vraisemblablement elle ne s'en remettra pas, qu'elle est atteinte d'un cancer. Et c'est l'itinéraire de ce gamin, entre ce père, cette mère, cette belle-mère, on va dire, tendre et aimante, et comment est-ce qu'on fait pour accompagner un enfant vers ce qui est complètement inéluctable, la disparition d'une mère aimante. Alors c'est des personnages qui sont très très beaux dans ce film, parce que comme ça, à faire ce résumé, on pourrait se dire mon Dieu, c'est d'une tristesse,
c'est plombant,
et en fait sincèrement pas du tout, parce que c'est empreint d'une poésie, et vraiment on le voit à chaque plan. Et puis les personnages, que votre personnage, le personnage de la mère incarné par Suzanne Clément, est-elle complètement pleine de vie, d'enthousiasme et d'une folie qui fait qu'on n'a pas la sensation que la vie va s'arrêter. C'est ce que vous avez ressenti vous aussi ?
Absolument, absolument. C'est le talent de ces réalisateurs, Pascal Ralit et Colombe Savignac, qui ont donné un ton à la fois empreint de pudeur, de drôlerie à certains moments, c'est-à-dire qu'ils ont su restituer la vie dans toutes ces contradictions, c'est-à-dire que, sans vouloir faire des phrases trop simples, trop faciles, je dirais que c'est un film qui fait du bien là où ça peut faire mal, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à traduire quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire que il n'y a pas... c'est facile à dire en même temps, mais il faudrait qu'on réapprenne à regarder la vie avec probablement aussi cette finalité qui arrive à un moment donné. Donc en fait, en réalité, chacun cherche ses mots, comme moi là maintenant avec vous.
C'est toujours dans le rôle.
Oui, oui, c'est ça. Ouais. Le gars n'en est pas sorti. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est comme devenir père, devenir maman, c'est pas un truc inné, c'est une chose que l'on apprend au moment où c'est là, quoi. Et la disparition de quelqu'un, c'est pareil. On a beau l'anticiper, on a beau savoir, on a beau l'entendre parler. Et encore une fois, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que ils nous ont accompagnés face à cette histoire, et en même temps, ils nous ont pas pris en otage. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'émotion, elle vient d'elle-même. C'est comme, je dirais presque le rire.
Oui.
Une émotion, on n'est pas obligé de l'anticiper, et pourtant, elle arrive. Mais la difficulté que vont avoir tous ces personnages, c'est justement de trouver les mots, les uns pour les autres, parce que tout est dans l'amour, tout est dans la bienveillance. Mais une fois que c'est dit, concrètement, c'est pas toujours simple d'affronter certaines situations.
Comment on enchaîne ?
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et votre personnage, il est très intéressant, et je me réjouis de vous voir dans un rôle tel que celui-ci, Pascal Demolon, parce que je vous aime beaucoup au cinéma, et je trouve que là, vous avez une dimension très particulière dans ce film.
Moins bien les autres.
Non, c'est pas ça, mais je trouve que la proposition qui vous a été faite là, en vous demandant d'incarner le père d'Adrien, elle est vraiment exceptionnelle, parce que vous êtes un homme à la fois, vous êtes Vous êtes père, vous êtes ancien mari et vous êtes amoureux aussi de votre côté. Vous avez une forme de responsabilité, c'est un peu beaucoup sur vous que repose toute cette famille, toutes ces femmes, tout cet amour en fait. Et je trouve que c'est vraiment inouï de vous voir dans un rôle tel que celui-ci.
Écoutez, d'abord, je vous en remercie. Ça fait plaisir.
On s'y attendait pas, hein, une telle force. On s'y attendait pas.
Non, c'est pas que je m'y attendais pas, mais j'ai été touchée au cœur. Non, c'est vrai.
Voilà, on est là pour dire la vérité. Pas se mentir. Voilà.
Mais comme dans le film, pas de chichi, pas de
chichi. Moi, je pense comme Daniel.
Pas de ceci, cela. Non, mais c'est vrai que, a priori, c'est vrai que, d'après ce que j'entends, on ne m'attendait pas forcément dans un rôle comme celui-ci. Donc, évidemment, j'ai pris ça comme un cadeau, comme une responsabilité aussi. Mais intimement, puisqu'on est là, et que ça restera entre nous, personne ne le saura. C'est des rendez-vous qu'on attend en fin de soi. On a le sentiment de les avoir en nous, et puis on attend le jour où quelqu'un aura envie de nous confier cette mission. Et je dois dire que.
Et c'est un premier film.
C'est un premier film, mais alors il faut le dire pour y croire.
Parce que quand on voit le film, on peut pas se rendre compte. Moi, j'ai cherché après, des infos sur le réalisateur, sur Colombe Savignac et Pascal Rallit, et en fait, j'étais complètement stupéfaite de me rendre compte que c'était un premier film.
Absolument.
Et qu'ils ont 12 ans, c'est extraordinaire.
C'est ça. Ils l'ont démarré à 12 ans, ils l'ont terminé à 13.
Comment ils sont venus vers vous, Pascal Le Molon? Comment ça s'est passé cette histoire? Parce que c'est pas anodin comme proposition, le rire de ma mère.
Non, ça ne l'est pas, c'est... Je me pose encore la question. Non, ça s'est fait simplement. Donc, je connaissais auparavant Colombe Savignac, qui est une amoureuse du cinéma depuis très longtemps, qui a été script doctor, qui a fait La Fémis et tout, etc. Mais en toute discrétion, c'est-à-dire que pendant très longtemps, comme Pascal Rallit, qui est lui aussi dans le cinéma depuis très longtemps, il a été directeur de production, il a été assistant. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont pris leur bain quotidien dans le cinéma. Ils l'aiment depuis très longtemps, ils aiment celui des autres, ils sont curieux, voilà, et patiemment, je pense qu'ils ont mûri ce projet qu'ils avaient en commun. Ça aussi, c'est extraordinaire, parce que c'est un couple. Ils l'ont coécrit, ils l'ont co-réalisé, et assez souvent, vous ne l'avez pas fait cette fois-ci, mais on me pose la question de savoir mais comment un couple peut travailler ensemble.
J'allais venir.
C'est vrai. Pardon. Allez, on recommence.
Non, vous ne la posez plus.
Non, je suis vexée.
Très autonome, en fait, Pascal.
J'en parle parce que c'est...
On s'arrête à 12h30, Pascal, pour un fond, vous pouvez y aller. Allez-y, c'est bon.
Prévenez-moi, parce que c'est vrai que je peux rester longtemps sans parler, mais parfois, quand j'y vais, voilà.
Mais comment ça s'est passé justement
mais à merveille. Non, mais vraiment, j'avais envie de le dire parce que tout est possible et même le meilleur, comme dirait l'autre. Et ça a été vraiment, même, je vais vous dire, émouvant pour nous autres, les acteurs. Parce qu'on pouvait s'inquiéter, se dire
est-ce qu'ils vont avancer de concert?
Exactement. Et en fait, c'était de concert. Ils ont une complicité extraordinaire. Ils ont une sensibilité commune. Ils ont leur sujet depuis tellement longtemps. Mm-hmm. Ils l'ont fait grandir ensemble. Ils l'ont vécu ensemble. Voilà.
D'accord. Et s'inspirer donc d'une histoire vraie.
Absolument. Ils ont à la fois cette détermination, cette exigence et cette pudeur qu'on ressent quand on voit le film en permanence. Ce qui fait que, concrètement, pour vous dire, quand un vient nous parler au moment d'essayer de peaufiner une scène et tout, etc., si c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais on sait que de toute façon, il y a une parfaite harmonie, qu'il n'y aura pas contestation, qu'il n'y aura pas discussion pendant des heures, à dire non, mais toi tu le dis comme ça, moi je l'aurais dit différemment. Voilà, ouais. Pardon. mais autant tout dire. Et cette grâce, on la ressent dans le film.
Dans votre jeu à vous, Pascal de Molon, mais également dans celui de Suzanne Clément, de Sabrina Sévécou qui est à vos côtés, et puis aussi, sans donner la part belle au rôle d'Adrien, Igor Van Dessel qui incarne ce petit garçon est absolument fabuleux. On a eu l'occasion de le voir récemment dans L'Échange des princesses de Marc Duguin, il incarnait Louis XV, et là je pense que non seulement il faut tous ces adultes autour de lui dans une forme d'intensité, d'enthousiasme et de de tendresse, et il faut aussi un petit garçon qui soit capable de tenir l'histoire, parce que il est quand même le personnage autour duquel tournent toutes les angoisses, parce que c'est à lui dont on se soucie de lui, on se soucie de son avenir, et lui se demande s'il va être assez courageux.
Oui, c'est un point de vue extraordinaire, d'ailleurs, ouais. Je trouve justement qu'il soit un peu le pivot de cette histoire, ce regard d'enfant qui découvre ses premiers émois, qui découvre la vie, les premières sensations, les mains moites, l'amour.
Ouais.
Parce que c'est un mot récurrent, je trouve. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, moi, personnellement.
Vous pouvez l'épeler pour voir.
Oui, attendez, vous êtes prêts. Et là, le gars se plante. Et là, on se dit, mince, quel dommage.
C'était
bien parti.
Pourquoi
il
prend
ça. Et donc, oui, ça... Il est, alors pour tout vous dire, il est d'une maturité extraordinaire.
C'est-à-dire Igor Van Dessel.
Ouais, moi, je l'ai trouvé meilleur dans celui-là que dans le film de Dugain. Là, il est au top. Dans Dugain, il est moyen, mais là.
Mais
il
non.
T'as dit l'inverse à Dugain.
Oui,
mais c'est normal. C'est normal.
La
c'est la science de l'accueil.
Et Dugain était d'accord.
La science de l'accueil.
Non, c'est pas vrai.
C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, écoutez, vous l'avez vu, donc je vais pas vous mentir, il était étonnant dans sa maturité, et puis en même temps, il avait son âge, c'est-à-dire que pendant le tournage, c'était un enfant, et je dois dire que la première fois que je l'ai rencontré, ça m'a un peu troublé, parce que le gars va chercher le moyen de dire du bien de lui. Il m'a fait penser à moi quand on avait le même âge.
J'étais
c'est
dans
étonnant,
le doute.
Extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'était troublant.
Ça, c'est une bonne comparaison, je trouve.
Ouais. même physiquement, c'est-à-dire que j'ai
il était
retrouvé.
Beau.
Non, c'est pas moi.
Attention.
Non, c'est pas moi.
Je vous dis à l'oreille.
N'écoutez pas, Albert.
Non, c'est la personne âgée à côté de moi. Non, c'est pas moi.
Il y a eu un phénomène quoi, d'identification. Vous vous êtes dit, en le voyant, ça aurait pu être moi gamin. Quoi.
Voilà, j'étais en immersion totale. Ouais. Vous savez, les acteurs aiment bien de dire, vous savez, moi, en amont, on travaillait beaucoup en immersion. Là, ça s'est fait comme ça, spontanément. Et avec aussi... avec cette effectivement cette maturité assez extraordinaire et ce potentiel de vie qu'on ressent dans le film cette concentration il était concerné. C'est pas toujours évident avec un enfant qui veut bien être là de temps en temps mais qui au bout d'un moment a envie d'être ailleurs. Lui, il a toujours eu envie d'être là.
Oui, ça se voit.
Ainsi que je dirais nous autres Suzanne Clément, que je peux vous dire en confidence que j'avais un peu, ça fait trois queues, hein, mais vous avez vu ma spéciale dédicace.
Il y en a après Tchernobyl, ça leur est arrivé.
C'est vrai. Écoutez, je ne me souviens plus y être allé, laissez-moi réfléchir. Non, Tchernobyl, ça ne me dit rien.
C'est pour ça.
Et donc, j'avais secrètement un rêve de un jour, vous savez, parfois on se fait des petites listes qui
et
s'agrandissent.
Suzanne Clément,
oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Et ça faisait partie de ces comiennes que je rêvais de rencontrer. Et je me l'étais dit un an ou deux auparavant, avant cette rencontre. Et donc ça a été assez émouvant pour moi de parce que je reste quand même assez fan de mes camarades. Vous savez, pendant des années, parfois vous avez le temps de regarder les autres. Et ça fait du bien, et il y a des gens qui vous font du bien.
Ouais.
Et puis vous vous dites, ah, si un jour, peut-être que... Ah, ça serait chouette.
Ouais. Je vais vous présenter quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Tom Villa, vous l'avez remarqué, Pascal Demolon est parmi nous, mais pourquoi?
Ben, vous l'avez dit pour le film Le Rire de ma mère. Alors donc voilà, on peut pas trop en dévoiler au risque de gâcher le film, mais si on peut donner envie aux gens de le voir, il y a dedans une sorte de témoin de l'histoire. Vous faites dans le film un métier disparu.
Ah oui.
Vous travaillez dans un vidéoclub.
Ah,
alors ça, c'est quand même extraordinaire comme boulot. Parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, donc les sexagénaires, qui devront expliquer à leurs petits-enfants ce qu'a été un vidéoclub, il fallait se déplacer pour aller chercher le DVD d'un film que tu vas aller rendre après. C'est fou, c'est une sorte de VOD avec un très mauvais bilan carbone. Voilà, c'est ça. Le mec qui a mis toutes ses économies dans un vidéoclub, il devrait se sentir comme un militant de Juppé. T'es sûr que c'est le bon candidat? Oui, c'est sûr. Il peut pas perdre. Fais-moi confiance. Moi, gamin, j'allais au Vidéo Futur. Alors, je me permets de citer la marque parce qu'a priori, c'est pas mon mini coup de projecteur qui va relancer l'enseigne. Je rentrais dans le magasin et j'avais pas le droit d'aller dans le fond derrière le rideau à paillettes. Alors, c'est parce que c'était les films pour adultes. D'ailleurs, petite remarque au passage, est-ce qu'il y a un truc moins discret et plus attirant qu'un rideau à paillettes? T'as envie d'aller voir ce qu'il y a derrière.
Absolument.
Et encore plus relou, c'est pas d'y rentrer, c'est d'en sortir, tu vois. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir du porno avec Internet. Le plus dur, c'est juste de pas oublier d'effacer l'historique, mais c'est tout, tu vois. Alors bon, bref, les vidéoclubs sont en train de s'éteindre.
Ça sent le vécu.
A priori. De quoi?
Étrangeur,
rideau à paillettes.
C'est mon père qui m'a raconté.
Il y a un moment d'émotion, hein, des
jeux. Immersion totale
avec son père.
On y allait en famille. Et non, a priori, il resterait aujourd'hui que 4 vidéos futures dans toute la France. Vous vous rendez compte?
T'as les
c'est fou. près, il y a à côté de chez toi Melun, Melun Sud et Melun Ouest. Alors non mais c'est fou comment une profession qui était au top peut dégringoler en si peu de temps. Il y a plein de métiers qui disparaissent vite. Députés socialistes, ouais. Alors eux c'est plus radical, ils sont passés 295 à 31 en 5 ans. D'ailleurs il reste plus de députés socialistes que de socialistes, c'est très rare. Et si on fait pas gaffe, dans 10 ans on les envoie à Beauval se reproduire en captivité. Et le plus dur pour eux c'est qu'ils vont se faire caresser par Brigitte Macron. Après il y a des métiers qui ont disparu et c'est pas plus mal. Bourreau. Voilà, alors en France, parce que évidemment à l'international, il y a encore 2-3 pays où ça bosse bien, mais bourreau, voilà, ça a disparu. Ramasseur de quilles de bowling, je vous jure que ça existait. C'est comme ramasseur de balles à Roland-Garros, tu bosses pas pour vrai, Roger Federer, mais pour Roger qui fête ses 50 ans avec ses collègues.
Ou pour moi, alors.
C'est bien comme boulot. Bah écoute, je me prends des boules en boîte, 10 kilos dans la gueule toute la soirée, j'ai plus un chicot, mais il y a une bonne ambiance. Voilà. Non, il y a plein de métiers en revanche qu'on pensait disparus, qui sont en train de revenir. Par exemple, disquaire, gros retour du vinyle, les gens reprennent goût, ça c'est bien. Ça donne de l'espoir aux socialistes. Barbier, avec les hipsters et le nouveau gouvernement, ça bosse dur. Il y a graphiste à Béziers, ça a bien bossé l'année dernière. Hein. Et voilà, regardez le rire de ma mère. Pensez à mon rideau pailleté. Et si vous voyez une paire de chôles sous le rideau, bah c'est peut-être celle de Daniel Morin. Bonne journée.
La bande originale. Leïla, quand on vous a dit Pascal Demolon fera partie des invités de 2018, vos oreilles ont plus que sifflé.
Oui, bien sûr, ça a sifflé dur parce que j'ai pensé, Pascal Demolon, à l'élève que vous étiez et un de vos profs, pour faire un parallèle avec le rire de ma mère, où on voit Adrien au théâtre, cette envie de faire du théâtre alors qu'a priori il n'a pas toutes les dispositions pour, mais moi j'ai pensé à quelqu'un que vous connaissez bien.
Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est le courage. Le courage de se révéler, de dérouler son intimité devant les autres, sans hésitation. L'acteur est un paquet de muscles qui ont besoin d'une raison de s'activer. L'idée d'agir, déjà, les excite.
Vous l'avez reconnu ?
Ouais, bon.
C'est Robert Cordier.
Ouais, Robert Cordier, évidemment.
Chez qui vous avez pris vos premiers cours. Et j'ai trouvé que, voilà, dans ce sonore-là, on l'entend parler de théâtre, de courage. Ça fait référence aussi à vous et à ce film, finalement.
Ouais, vous avez raison. Ouais, c'est vrai que c'est la première personne qui a bien voulu, non seulement m'écouter, mais me parler aussi. Donc, comme à d'autres, hein, évidemment. Et c'est un monsieur, qui a apporté beaucoup au théâtre à une époque, beaucoup l'ignorent peut-être aujourd'hui, mais voilà, il a été un peu le mentor, le papa, le confessionnal de jeunes gens, voilà, dans le désir d'eux, sans forcément comprendre tout le temps pourquoi, il a su justement lui trouver les mots pour enseigner pendant des années à des gens. J'adore là ce que vous venez de passer, ça m'a un peu ému, parce que c'est vrai que tout ce qu'il dit sur le désir, sur ce paquet de muscles qui n'est pas toujours en, voilà, fonctionne aligné. Pas toujours dans les alignés, voilà, qu'il faut entretenir, qu'il faut voilà, parfois c'est difficile de garder d'entretenir le désir, surtout quand on est seul, voilà, dans sa chambre, voilà, de bonne ou d'autres, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que des chambres de bonne à Paris. Hein, je ne sais pas si on vous l'a dit. Il y a aussi la chambre chez l'habitant, la chambre chez moi, et voilà. Et donc, oui, c'est super émouvant. Merci d'abord de nous avoir fait écouter sa voix. Il a amené beaucoup de choses en France, de la littérature un peu contemporaine d'auteurs comme Sam Shepard, des pièces qui ont compté, qui comptent encore aujourd'hui, Fool for Love, Savage Love, et puis un peu cette odeur, cette énergie de l'acteur studio, vous savez, cette école qui a brillé dans le monde, puisqu'elle nous a quand même amené pas mal d'acteurs connus, Dustin Hoffman et bien d'autres, enfin voilà.
Oui. Tex.
Oui. Mon Dieu. Peut-être une mine de silence pour lui ou non.
Continuez, on fait ça après. Continuez, Pascal. Continuez.
Oui, pardon. Donc, voilà, donc d'abord merci. Ah, j'aurais dû commencer par ça. Il m'a fait entendre sa voix. Voilà, c'est un monsieur qui.
Il vous a donné confiance, je crois. Il a été exigeant avec vous. Il a été un peu ce premier enseignant à qui on rend toujours un peu hommage. toute sa vie ?
Oui, je le ferai jusqu'au bout. C'est aussi le papa d'auteurs, réalisateurs comme Xavier Duringer et bien d'autres. C'est-à-dire que non seulement, la confiance, vous avez bien raison, parce que tout d'un coup, ça me fait penser à cette timidité que j'avais. Et que s'il m'avait pas plaqué un jour contre le mur pour me dire, écoute, je veux bien prendre ton argent, mais en contrepartie, il va falloir que tu bouges tes fesses.
Ah oui. Alors qu'il aurait pu se contenter de prendre l'argent.
Ça le satisfaisait pas. Donc, et c'est avec cette prise de pouvoir, je dirais, avec cette peur qui m'a infligée que j'ai accepté de travailler ma première scène et de monter sur scène, comme on dit.
C'était quoi comme première scène ?
C'était une pièce de Marivaux, une scène, de mémoire, je sais qu'il était question d'amour encore et toujours, et que ça se passait pas trop bien. ça, je m'en souviens.
C'est souvent un peu le cas chez Marivaux, un petit moment. À un moment donné, chez Marivaux, ça se passe pas bien côté
amour. Chez Marivaux et ailleurs, d'ailleurs. Parfois. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais elles existent, c'est ça qui est important.
En tout cas, vous êtes passé par Robert Cordier, par son enseignement, l'acteur studio, Michel Simonnet aussi, vous avez fait du cirque, de la danse, vous avez fait énormément de choses. Pascal Lemoulin, je me demande si c'était une façon d'anticiper, de se dire il faut être prêt à tout, c'est un besoin de se rassurer.
Oui.
C'est quoi ?
C'est tout ça. C'est-à-dire, c'est trouver aussi une forme de légitimité, se dire qu'on a le droit d'être là. Et pour ça, j'ai cette notion du travail qui... Pardon, je fais un lien, mais parce que c'est la vérité, qui me vient de mon père, qui travaillait beaucoup et qui estimait que le travail c'était la liberté, de se dire que là où on était, c'est parce qu'on l'avait gagné et parce que on l'avait mérité. Donc j'ai eu ça dans la tête. Je dis mon père, mais je devrais dire ma mère aussi. Et je vais pas vous chanter la chanson de Claude François, mes frères et mes sœurs, mais donc c'est une famille qui a été élevée.
Rapport à la terre en plus, qui est un travail très âpre, très difficile, je crois.
Il faisait un peu comme les Américains, il faisait plusieurs jobs en même temps, à part flic, sinon il a été couvreur zingueur, il a fait beaucoup de choses pour subvenir aux besoins de la famille qui était grande. Et surtout, il avait cette espèce de fierté qu'ont encore aujourd'hui beaucoup de gens qui puisent leur honneur, leur joie de vivre dans le travail, dans cette, c'est une forme de reconnaissance. Mmh. Avoir du travail aujourd'hui, c'est être reconnu par les autres. Et donc, j'avais ces notions-là dans la tête. Et donc, il fallait absolument mériter sa place. Et puis, je me disais souvent, je trouvais tellement extraordinaire tous ces gens que j'écoutais, les Rochefort, les Marielle et bien d'autres, tous ces acteurs d'avant même. Enfin, je vais pas vous faire la liste. Mais, ça a imposé une exigence. On se disait, mais mince, mais ils voudront jamais de moi. Mais quoi faire pour que juste 5 minutes. Vraiment, je vous raconte pas d'histoire. C'était ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Et donc, j'ai grandi avec l'exigence et parfois peut-être un peu excessive. Quoi. Donc, quand vous faites la liste, et j'ai fait plein d'autres choses aussi. J'étais dératiseur aussi. Voilà, je me dis au cas où.
C'est un jour, il y aura toujours des rats.
Je suis un spécialiste.
C'est vrai. Toujours.
Il y en a dans mon quartier, ça m'intéresse.
Ça savoir, si on peut finir l'émission et puis après vous débrouillez tous les deux.
D'accord.
Pascal Demoulon est avec nous jusqu'à 12h30 pour Le Rire de ma mère qui sera en salle le 17 janvier prochain. Ah, un petit peu de musique, on va aérer tout ça. Géopoétique, pardon, avec MC Solar. On se retrouve avec la bande originale, l'humeur de Marina Rollman et également
la bande originale.
Pascal Demoulon en musique, mais pour l'instant MC Solar sur Inter.
Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnaps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, à Yep, ou vol comme Bob au Comor.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, si quitté du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif, il n'y a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, arme automatique, monde hypnotique, géopoétique.
Du monde, j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes, on dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique. J'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen. Il lâchait des volutes accompagnées par des Yémen.
Géopoétique, MC Solar sur France Inter. Nous sommes toujours dans la bande originale avec Pascal Demelon pour Le Rire de ma mère.
Qui sera en salle le 17 janvier. Et Pascal Demelon, je me posais une question. Est-ce que vous vous êtes vu dans ce film? Est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous avez ressenti?
Waouh, alors, on se dit la vérité.
Il n'y a pas de piège.
Il n'y en a pas joué, non, mais...
Mais je crois que vous avez dit oui.
Ça fait tic-tic dans ma tête.
Comme si vous étiez un spectateur, c'est ça?
C'est ça. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que... Quand je suis sorti de la salle, j'avais la gorge un peu nouée, j'avais les yeux un peu embués, et je voulais pas faire peur au réalisateur qui me regardait, voilà, inquiet à l'idée de ce que je pouvais en penser, de savoir de ce que j'en pensais. Et j'étais dans une... Comment vous dire? Je vends pas de tapis, hein, entendez-moi bien. C'est-à-dire que j'étais dans une émotion qui est assez peu commune. C'est-à-dire que... Je n'avais pas les mots pour exprimer ce que j'avais envie de dire. Bon, alors j'ai commencé par un bravo, merci, bon boulot. Et après, j'avais tellement envie de leur dire tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais vu de ce film. Et oui, j'ai oublié que je jouais dedans.
Vous
et c'est pas de mince affaire, hein, avec l'ego des acteurs qui se demandent s'ils ont mis la main où il fallait, s'ils avaient dit le mot comme il fallait.
Ah ouais.
Et ça a été la magie de ce film, c'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas un film qui vous prend en otage, hein, qui vous dit que c'est comme ci ou comme ça qu'il faut ressentir les choses, c'est-à-dire que ça vient imperceptiblement, je dirais presque gentiment, ça vous parle de la vie, et à un moment donné, oui, vous êtes embarqué sur le tempo, sur le rythme de cette vie, de ces gens qui cherchent les mots pour être au plus juste de ce qui se passe. Et c'est cette magie, c'est cette plus-value, cette grâce que ce film a. Pardon, ça fait plein de mots, je
mais
sais.
Non,
et surtout d'un gars qui joue dans un film et qui vient en parler. C'est toujours très difficile de donner envie aux gens, de leur dire, écoutez, allez voir ce film. Pas pour moi, ni pour personne, mais pour vous.
Et je vais dans votre sens complètement, Pascal Demelon. Et puis pour le coup, moi je suis pas impliquée dans le film. Mais vraiment, Le Rire de la Mer, c'est un petit objet merveilleux qui en effet tombe pas dans le pathos. Faut quand même rappeler la thématique pour ceux qui nous rejoignent. C'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui dont les parents sont séparés. Le père a refait sa vie, ou est en train de la refaire, mais il n'abandonne quand même pas la mère de son fils qui est malade, qui a un cancer, qui va mourir, tout simplement. Et c'est comment on accompagne cet enfant, comment on le prépare. Je me demandais comment le père que vous êtes a vu ce film aussi et a joué ce rôle du père, parce que vous êtes papa dans la vie.
Oui, ouais, on vous l'a dit. Ah d'accord, très bien. Bah, voilà, je peux plus vous mentir.
Enfin, c'est la vomi, ouais, après. Ouais. Nous,
vous avez un petit peu de vomi sur l'épaule.
Oui, c'est le bilan. Je lui ai donné un moment donné. Pardon.
J'en prie.
Oh mince alors.
Et quand même, vous ne seriez pas papa. En tout cas, ça peut nourrir une expérience individuelle de toute façon.
Oui, ben voilà. En sortant de ce film, pardon, mais j'ai eu envie d'appeler d'abord ma mère. J'ai eu envie d'appeler. Alors, mon père, c'était compliqué. Il n'avait pas poursuivi son abonnement, donc compliqué. Il s'est pas réabonné, et ou du moins peut-être qu'il n'avait pas payé. Enfin, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai eu envie d'appeler les gens que j'aimais, y compris ma fille, que j'aime beaucoup, parce que vous savez, il y a des endroits dans la vie où on a l'impression qu'on a le temps de rien et qu'il faut aller très vite hein, si on veut pas passer à côté de sa vie ou des choses soi-disant importantes. Et d'un coup, j'ai eu vraiment envie de les appeler, leur dire, voilà, des choses que dans le stress, que dans le rythme de cette vie...
Qu'on oublie de faire
ouais,
ou dire.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Qu'on fait pas assez bien, quoi.
Ouais. Et
par pudeur. Par
pudeur, et puis, oui, et puis...
Par négligence, quelquefois.
Par négligence, et puis par la peur de, encore une fois, de pas trouver les mots qu'il faut, pour pas que ça fasse trop, pour pas... Parce que vous savez, quand on est dans un monde où on se dit, on se pose même la question de savoir si on a le droit d'être gentil, hein, quand même. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas déplacé? Oh, tain, le gars est gentil.
Si, ça l'est. Hein.
Ça l'est, on est d'accord.
Entre nous.
On est d'accord. J'ai même entendu dire des gens, ah oui, mais il était trop gentil. Ouais. Je lui dis, bordel, comment on arrive à ça, quoi? C'est-à-dire que
comment ça
part...
devient un défaut?
Comment on peut associer les deux?
Oui, comment on peut associer? Oui, oui. Et donc,
vous aviez envie de nous faire une déclaration d'amour, c'est ça, Pascal?
Ouais, sincère.
Ouais.
Ah ouais, ouais, je vous la fais. non, je vous la fais sincère. Mais...
Ah, tu me files 10 000 euros, je te la fais tout de suite. Ouais, moi, je suis comédien. Hein. Tranquille. Hein. Tu me laisses 3 minutes.
Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Hein, je te le dis tout de suite.
Moi, je fais une déclaration d'amour à ce film, Le Rire de la Mère, de Colombe Savignac et Pascal Rallit, avec Le Rire de ma Mère, pardon, avec Suzanne Clément, Sabrina Sevecou, Pascal de Molon et Igor Van Dessel, entre autres.
Elle, c'est une déclaration d'amour à elle toute seule. Elle va nous donner sa drôle d'humeur. C'est Marina Rollman. Mais oui, allez-y. Aimez-nous.
Alors, aimons-nous, oui, effectivement. Alors moi, pour cette première chronique de l'année, j'en profite contractuellement pour vous souhaiter à tous autour de la table et à tous ceux qui nous écoutent une excellente année. Et à moi, je me souhaite de tenir la résolution que j'ai prise il y a quelques jours, qui est de commencer le taekwondo, afin de pouvoir cette année mettre un terme à l'existence de tous les gens qui entameront une conversation avec moi par la phrase « Moi, ça va, mais toi, dis donc, t'as l'air crevé. » Je vais tous les buter. Voilà, 2018, l'année du high kick, ça c'est terminé. Non, parce que de toute façon, ce soit avec la circulation sur le périph ou la pénurie régulière du tofu fumé que j'aime bien chez Naturalia, on est trop, ça se voit. Or, il faut regarder les choses en face. Pour paraphraser, je ne sais plus si c'est Booba ou Charles Péguy, mais bref, si l'humanité était une équipe de foot, on n'a pas que des numéros 10 dans notre team. Donc autant élaguer un petit peu en commençant par les connards qui te saluent en te disant qu'ils n'aiment pas ta gueule. Non mais parce que, au-delà du côté saloperie gratuite de dire « t'as l'air crevé », qui est quand même un petit peu l'équivalent de te dire « moi ça va, mais toi dis donc, oh là là, qu'est-ce que tu sens le varec ?» Quelle est l'utilité de dire t'as l'air crevé? Quel est le projet? T'as un clic-clac dans ton sac, je peux faire une sieste? Non, on se fait juste des compliments. Bah écoute, quant à toi, tu sens un peu le chou et t'as les pores dilatés. Qu'est-ce qu'on se dit là? Non, mais surtout que moi, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Je suis née avec des poches sous les yeux. C'est la forme de mon visage. Il y a eu la gloire de mon père, Pascal de Moulon, vous êtes dans le rire de ma mère. Mes parents, s'ils avaient écrit un truc, ça aurait été les cernes de ma fille. C'est pas grave, mais faut s'y faire. Et on se gêne pas pour me le rappeler constamment. Bah oui, ça fait partie des joies d'être une femme qui se dirige gentiment vers une notoriété comparable à un second rôle dans une pub Saint-Moray. Je commence à avoir des gens qui me suivent sur Internet. Et donc, une fois par semaine au moins, je reçois sur ma page un petit message tout gentil avec une technique pour faire disparaître les cernes. Alors, je dis pas que c'est mal intentionné, hein, d'autant plus que 100% du temps, ce sont des hommes qui m'envoient ces messages. Donc c'est vrai qu'en termes de cosmétiques, ils savent quand même vraiment de quoi ils parlent. Hein. C'est vrai que l'hétérosexuel moyen, quand il décide de mettre le paquet, il va quand même se raser, prendre une douche et mettre une chemise.
Pas toujours.
Ouais, non, mais pour ceux qui font la totale, c'est vrai que nous, les nanas, on voit ça, on se dit, mais comment vous faites pour jongler entre ça et une vie professionnelle? C'est dingue. Moi, je trouve ça fou, ces mecs qui se permettent. J'aimerais tellement avoir ce niveau de confiance en moi. Les types, c'est pas leur boulot, la beauté, mais ils voient une photo de moi et ils se sentent légitimes de donner leur petit coup de cœur sérum contour des yeux, comme ça. Je pense que c'est les mêmes types, ils regardent les images de Thomas Pesquet, ils sont là, une bière à la main, l'autre dans le slip, et ils sont là, ouais, c'est marrant, moi je l'aurais pas fait dans ce sens-là, l'approche de la station spatiale internationale. Tu vois qu'il a pas encore le vaisseau dans l'œil, il est un peu minot, Pesquet. Non mais, je suis méchante, messieurs, j'apprécie votre envie de m'aider, et sachez que si un jour j'ai besoin de savoir quel déodorant choisir entre Axe connard qui va en boîte ou Axe connard qui sort du squash, j'hésite pas, je vous fais signe. Mais plus sérieusement, d'où c'est un défaut les cernes? Je veux dire, les standards de beauté, ça change tout le temps. Une année, il faut faire 16 kilos, avoir les cheveux courts platine. L'année d'après, il faut une queue de cheval qui t'arrive au jarret et un cul qui rentre pas dans une punto. Sincèrement, il serait temps qu'on admette qu'on n'est pas tous lisses sous les yeux, et c'est joli aussi, c'est pas grave. En attendant, amis cernés de tous les pays, unissons-nous sous le patronage de nos saints Philippe Séguin et Léa Seydoux. Et tous ensemble, retournons un petit moment sous la couette, pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est quand même vachement sympa.
Marina Rollman.
La bande originale sur France Inter.
Ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu parler de Punto.
Ça fait, très oui, ça fait du bien.
Dans la même phrase avec Léa Seydoux.
Et de Séguin.
Ouais,
une question jambon sous les yeux.
Oui, oui, c'est vrai.
On dit aussi avoir des couilles d'hirondelle en argot.
Ah, bah tiens.
Ah, voilà, c'est le retour du printemps. Les hirondelles. Pascal Demolon, on va revenir sur quelques dates importantes de votre vie et en musique.
Bravo, Daniel.
On commence en 1995.
Chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour.
Jacques Brel, La Quête.
Oui.
Ouais. Hey, ça vous parle?
Ben, pas mal, ouais. Ouais, oui. Ouais, ouais. C'est vrai.
Vous me faites penser à lui, moi. Vous me faites penser à Jacques Brel.
Ah, c'est amusant. Il y a quelques années, on me le disait de temps en temps.
Ouais. Ouais, c'est... Je sais pas, quelque chose dans le visage, dans le physique, dans ce côté grand, fin, émacié.
Ah oui. Alors, entre-temps, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on me l'avait dit. Et ça a été évidemment une rencontre importante pour moi, qui s'est faite sur un article collé sur le mur de ma classe, rentrée, je ne sais plus exactement quelle année, avec mon prof principal de maths. Donc, il avait collé cette page de journal qui annonçait la mort de Jacques Brel, que je ne connaissais pas. Avant, c'était Johnny pour moi, Johnny Hallyday.
Ouais.
Et puis, ce jour-là, j'ai découvert Brel. Un peu effrontément, je me suis posé devant l'article, pour essayer de le lire et de comprendre qui était ce monsieur. Et à partir de ce moment-là, ma vie va changer.
Parce que vous écoutez, parce que vous êtes...
Oui.
Pourquoi ça change à ce point-là?
Parce que d'abord, quand on ne connaît pas, si on a un peu de chance, on est curieux, si on a un peu de curiosité, on va un petit peu plus loin dans le voyage. Et puis, c'est là où on a une chance de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Waouh, mais celle-là, mes amis. Mais ça me donne le frisson parce que, au-delà de l'artiste qu'il était, au-delà de ses textes extraordinaires, universels qu'il a su écrire, ce qui me fascinait chez lui, c'est la puissance de son regard sur nous autres, sur les uns et les autres, et sur lui-même aussi. C'est-à-dire cette perception qu'il avait comme des grands auteurs, de non seulement de voir et de traduire avec les mots qu'il choisissait, un peu
son époque,
et puis les vérités de chacun d'entre nous, et cette poésie. C'était génial parce que c'est un mec qui écrivait des chansons qui mettaient le frisson à tout le monde et qui disait mais je comprends pas de quoi vous parlez. Alors, quand on lui disait mais ne me quitte pas. Oui, j'ai fait ça, oui, gentiment, tranquille.
Comme sa chanson sur la mort, j'arrive.
Oui, pareil. Ouais. C'est-à-dire que c'est un gars qui, pour en revenir, tiens, justement, au rire de ma mère, c'est-à-dire qui n'avait pas peur d'aborder des sujets qu'on dit qu'il ne faut pas en parler.
Ouais.
Mais non seulement lui le faisait, mais il le faisait avec une telle force de vie qu'on avait envie d'entendre et d'écouter ce qu'il avait à dire. Et donc il m'a accompagné et encore aujourd'hui.
Vous accompagné en 95 aussi, c'est la musique que vous avez choisie pour illustrer cette année.
Film
où
de
vous
Ken
obtenez
Loach.
Un petit rôle dans le film Land and Freedom de Ken Loach. Comment vous décrochez ce rôle-là?
Oh là là, non, l'histoire est tellement jolie, mais ça prend trop de temps. Je vais essayer de ramasser ça. Non, sur deux phrases.
Je crois pas une seconde.
Impossible.
Allez, 28.
Non, j'y crois pas.
Allez, 4.
Commencez pas en nous mentant. Racontez l'histoire, Pascal.
Il y a une heure encore environ.
On a le temps. Racontez l'histoire. Allez, racontez l'histoire, Pascal.
Vous avez
la chance qu'on a beaucoup aimé le film.
Parce que sinon ça passait pas. Non, rapidement. Alors, vous allez voir, je vais avoir un débit et je vais essayer d'être assez compréhensible. Ces moments où il fait froid, quand la bise fut venue, ouais. Voilà, ces années où on attend le regard de quelqu'un, d'un metteur en scène.
Raccourcissez un peu là.
Ah voilà, j'étais sûr j'allais la prendre celle-là.
En gros, c'est la galère quoi.
C'est la galère, voilà.
Et puis, y a rien à bouffer, rien, on galère.
Oui, bon, c'est pas pour faire pleurer dans les chambres, mais bon, voilà, juste pour dire que ça existe.
Voilà, dans le travail.
Voilà, même au meilleur, voilà, même à moi. Non, le mec, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des répondeurs à l'époque sur lesquels il y avait des petits chiffres en rouge, vous vous souvenez, on a connu ça pour certains.
Oui. Avec les mini-cassettes.
Avec les mini-cassettes, si.
Il est beaucoup plus vieux qu'il en a l'air.
Oui, qu'il en a l'air.
Il a 40 ans.
Oui, 42.
Ah ouais, non, sérieux.
Ah,
j'aurais pas dit.
C'est très bien fait.
On revient à la réponse.
Écoutez, allez, ça y est, j'ai trouvé la formule. Une petite barre sur cet appareil qu'on appelait répondeur, la seule du mois. Et cette petite barre est un message qu'on me laisse pour dire écoute, voilà, rappelle-moi, je te promets rien, mais peut-être que c'est possible de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si tu l'aimes, c'est Ken Loach. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé des tas de choses dans ma tête que je vais vous éviter les détails. Vous avez vu, hein, j'aime beaucoup le queue. Hein. Et donc, je vais finir par rencontrer ce monsieur qui va s'intéresser non pas à mon CV, à ma carrière, mais qui va s'intéresser un petit peu à ma vie des derniers temps. Voilà, je lui ai raconté. Un mois après, on me fait revenir. Et on me dit, est-ce que vous seriez d'accord pour venir passer quelques jours avec nous? Et j'ai dit ah bon et quand ah mince vous avez un souci au niveau du timing non pas du tout et donc voilà je suis parti sur cette aventure, je suis resté un mois avec eux, c'est un petit rôle mais surtout j'ai appris l'exigence et j'ai appris la force de ce réalisateur dont je ne rate aucun des films qu'il peut faire, aucun voilà. Partie de ces gens qui sont importants qui font tellement de bien.
On change d'ambiance. 2012.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens.
Bachung.
La nuit je mens et là on change d'enregistre, c'est alors, Radio Star et on reconnaît Pascal de Molon.
Oui. C'est moi.
C'est vous.
Oui, je viens d'arriver, pardon.
Non, juste avant, en fait, on a fait un petit saut dans le temps et il faut que je fasse un peu la transition. C'est que juste avant, on vous confiait plutôt des rôles de salaud, Pascal de Melon. En gros, vous avez une sorte de période.
Bah non, ça c'est physique, ça.
À partir du moment où vous avez joué dans Cette femme-là de Nick Lou, oui. Où vous incarniez un serial killer assez stupéfiant. Ouais. Après, on s'est dit, tiens, on veut un salaud, on a de Melon.
Oui, appelle de Melon, il va te le faire. Donc, tous les violeurs, les machins, les trucs. C'est des rôles intéressants,
Il y a des acteurs qui rêvent de ça.
Il y en a, oui.
Qui en ont marre des rôles trop de gentils, en fait.
Bah, c'est parce que je savais qu'il y en a qui en rêvaient, que j'ai laissé tomber au bout d'un moment, en disant, je vais faire un break avec ça. Et d'ailleurs, je me souviens même à l'époque où j'avais tourné ce film de Guillaume Nicloux avec Josiane Balasco. Les choses étaient sans doute bien faites parce que à partir de ce moment-là, vous l'avez dit, je serai sur la liste des salauds de service. Il y en a même qui iront jusqu'à dire, c'était une petite rumeur qui circulait à l'époque, une toute petite, pas celle des stars, hein, vraiment, c'était dans le quartier et peut-être même un petit peu en banlieue, où on disait, non, mais le gars, je peux te dire de source sûre que le gars est un alcoolique. Hein. Ah ouais, non, mais attends, regarde le film, tu l'as pas vu avec Johnny Masco,
tu vas voir le gars.
Ouais, ça m'a collé un petit peu et ça devenait vraiment une preuve à charge du fait que dans ma vie privée, je devais
avoir une vie dissolue.
Je devais dérouler du câble.
Et donc en 2012, on valide l'expression. En 2012, donc, vous décrochez le rôle de Cyril dans Radio Star de Romain Lévy. Et là, c'est une façon aussi de dire, voilà, on coupe avec la filmographie qui précède et qui vous avait un peu enfermé.
Oui, c'est un joli cadeau, encore une fois. C'est un peu une chaîne de solidarité, je dirais, qui avait commencé un peu en amont. J'avais fait la rencontre d'un réalisateur qui s'appelle Arnaud Célignac, sur un tournage en Inde qui a duré quelques semaines. Et sur ce tournage viendra son fils, Hugo Célignac, qui je ne sais pas pourquoi, en tout cas je lui en rends grâce, s'est pris un peu de tendresse pour moi et a vu, je sais pas, des choses que je n'avais peut-être pas vues chez moi et qui va ensuite m'amener justement à ce cadeau, à Radio Star, qui va changer un peu ma vie d'acteur, parce qu'il y a eu un avant, un après. Ouais. Et il y aura Romain Lévy, le réalisateur de ce film, et puis tous ceux qui m'accueilleront sur ce film, et puis des gueules que tout le monde va découvrir aussi, comme Benjamin Lavergne et tout, etc. Et donc quand je dis une chaîne de solidarité, c'est que...
La Comédie Française.
La Comédie Française, et qui fait parler de lui en ce moment, et à juste titre, qui est formidable. Et donc voilà, de main en main qui se tendent, j'en suis arrivé à ce rendez-vous, et qui a été un très joli rendez-vous, et qui voilà, m'a donné le droit de rentrer... certains endroits, je dirais, de ce métier.
Ouais, et bien, bravo encore pour Le Rire de ma mère. Vous êtes à l'affiche à partir du 17 janvier dans ce très très beau film réalisé, écrit par Colombe Savignac et Pascal Ralit. Et nous a rejoint Léa Ganzel. Bonjour Léa.
Bonjour.
On parle de ce film et on vous a invité parce que la thématique de ce film est proche de votre histoire. Pour rappel, hein, le personnage d'Adrien, le petit garçon, découvre que sa mère est atteinte d'un cancer et qu'elle va partir. Qu'elle va mourir, et c'est un peu comment on accompagne cet enfant, comment le rire de cette femme résonne, comment sa personnalité, on essaye de la conserver, de la choyer jusqu'au bout. Vous, Léa, vous avez traversé un moment très, très douloureux dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ?
Donc j'étais enceinte de 7 mois d'une petite fille quand son papa est tombé malade. Du moins quand on a diagnostiqué en tout cas la maladie, donc il était atteint d'un cancer indifférencié de stade 4, donc il n'allait probablement pas guérir, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Donc on a cherché effectivement à accompagner notre fille le plus positivement possible, hein, puisqu'elle a toujours connu son papa malade, donc il est décédé quand elle avait 3 ans et demi. Et c'est pas forcément évident, effectivement, d'apprendre à la fois à être parent et un peu psychologue infantile, hein, puisqu'il faut quand même chercher à faire grandir son enfant le plus positivement possible.
Alors, on le voit dans le film, se pose la question, le personnage du père que vous incarnez, Pascal Le Molon, va consulter pour demander comment est-ce qu'on fait pour annoncer les choses. Comment dire, en fait ? On se retrouve, en tant que parent, démunis, on n'a pas envie de le cacher, et on veut aussi ne pas susciter de traumatisme. Comment, selon votre expérience à vous, comment est-ce qu'on aborde cette question si délicate ?
Je dirais que le plus important, c'est d'essayer d'utiliser des mots simples qui soient adaptés à l'âge de l'enfant. Oui. Parce qu'évidemment, on ne va pas parler de tumeur à un enfant de 3 ans, ni de cellule à un enfant de 6 ans, il ne va pas comprendre. Et également, je pense qu'il faut essayer d'être le plus sincère possible, parce qu'au-delà des mots, il y a aussi toutes les émotions que l'enfant va percevoir. Et si vous lui dites que tout va bien en train de pleurer, il va se rendre compte qu'il y a un souci quand même.
Hein. Ouais. Vous avez écrit un livre, Léa Ganzel, « Comment parler du cancer d'un jeune parent à son enfant » aux éditions Josette Lyon. Je me demandais, est-ce que vous, dans cette épreuve, vous avez eu de l'aide ? Vous vous êtes tourné vers des spécialistes ? Est-ce que vous avez été aidé par qui, en fait ? Parce qu'on est un peu seul, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Bah, j'ai cherché pas mal d'aide quand même. Hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, comme vous le dites, on se sent quand même pas mal seul. Donc ma fille était à la crèche et je me suis d'abord tournée vers la psychologue de la crèche, hein, qui était très sympa, qui a aussi encadré un petit peu l'équipe. Hein, parce que c'est vrai qu'ils se demandaient aussi comment accompagner ma fille au mieux, voilà, par rapport au quotidien. On avait également une infirmière à la crèche qui était très sympa et qui avait beaucoup plus d'expérience que moi dans les enfants, hein, puisque ma fille, c'était un peu le premier enfant que je voyais. Hein. étant fille unique, voilà, pas trop d'enfants dans mon entourage. Donc il nous a été plein de bons conseils, entre autres sur la gestion de la colère, des émotions, voilà, de la tristesse, qui nous a apporté pas mal d'outils. Et ensuite, on avait la chance d'avoir la PMI également dans l'immeuble. Donc ma fille a pu être suivie assez tôt par la psychologue de la PMI.
Qu'est-ce que c'est ?
Donc la PMI, en fait, c'est un centre pour les jeunes parents, donc qui va accueillir en fait les enfants de 0 à 6 ans. Donc aussi bien au niveau médical pour les vaccins, etc., la pesée des bébés. Mais ils ont également donc des psychologues, voilà, qui sont spécialisés vraiment dans les petits enfants.
Est-ce que on les préserve de tout, les enfants ? On peut arriver à les préserver. Enfin, j'imagine que l'inquiétude, c'est de se dire à partir du moment où on a décidé de dire la vérité à son enfant, parce qu'on va voir tout à l'heure que certains parents s'y refusent aussi. Quelle certitude on a ? J'imagine aucune. En posant ma question, je me rends compte du côté infondé de ma question, mais
on aurait pu gagner du temps.
Mais non, mais non, parce que je trouve ça délicat. J'imagine qu'on veut bien faire, on veut faire en sorte que tout se passe le mieux pour l'enfant, qu'il le vive le mieux possible. Or, c'est quand même une disparition, c'est quand même un décès.
Oui, c'est sûr, mais je dirais que quelque part, la maladie fait partie de la vie et la vie continue, donc après, on fait avec. Hein.
Non, mais c'est une chose de se le dire, c'est une chose de pouvoir le sortir en plus à son enfant. Ça oui, tout à fait. C'est extrêmement délicat.
Après, je pense que les parents peuvent aussi être encadrés et aidés, donc il y a aussi des psychologues pour les parents. Donc déjà, les parents peuvent aussi se tourner vers la psychologue de la PMI,
ne
vers
pas avoir
le CLP,
peur d'aller et faire
et
la démarche.
Et à l'hôpital aussi, oui. Des annonces, je dirais, il y a l'annonce initiale du pronostic. Après, il y a aussi des annonces tout au long de la maladie, puisqu'il va y avoir tout le temps, en fait, des étapes où on va faire des bilans. Et bien sûr, de temps en temps, malheureusement, l'annonce du pronostic mauvais, où là, on va devoir expliquer à l'enfant que son parent ne va peut-être pas s'en sortir.
Et qu'est-ce qu'on met en place ? Dans le film, on le voit, il y a le personnage d'Adrien, ce petit garçon, finalement comprend avant tout le monde, enfin avant assez tôt, ce qui va se passer pour sa mère. Il semble s'abandonner comme ça dans une activité à l'école, le théâtre, l'amour aussi, l'attirance pour une petite fille. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour des enfants aussi ? Est-ce qu'il y a des stratégies de diversion pour leur faire penser à autre chose, pour leur permettre d'avoir un éveil sur autre chose ?
Je dirais que c'est important de permettre à l'enfant de s'exprimer, donc que ce soit dans la tristesse, effectivement, dans la colère, dans les émotions négatives, mais également dans le positif, parce que l'enfant, il ne va pas mettre sa vie entre parenthèses parce que le parent est malade, il faut qu'il continue à vivre, à jouer, à rire. Et c'est important aussi de lui laisser cette liberté d'être un enfant tout court.
En tout cas, merci beaucoup Léa Ganzel pour votre témoignage qui est très touchant. Je rappelle, comment parler du cancer d'un jeune parent à son enfant, c'est aux éditions Josette Lyon. Et vous avez également un site, Cancer Jeunes Parents.
Voilà, qui donne des petites astuces.
Pour accompagner les autres parents qui font face à cette épreuve. En tout cas, merci beaucoup Léa Ganzel.
Merci à vous.
Un avis peut-être sur le film que vous avez vu ?
Oui, j'ai trouvé le film très touchant et très juste surtout. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on ne va pas tomber dans le pathos. Hein, on n'est pas dans le misérabilisme triste. Et ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est de voir cette maman, justement, qui a vraiment envie de vivre, en fait, la vie qui lui reste et qui reste toujours très positif.
Merci, Léa Ganzel.
Bravo.
Merci à vous.
Merci.
Et Pascal, justement, vous êtes mis un petit peu en projection de ce que vous diriez si jamais vous étiez confronté à ça dans votre entourage.
Tout d'abord, je l'ai été. Aussi, mais comme...
Mais après le film, oui.
Après le film, non, moi ce que je retiens, c'est on peut pas anticiper. C'est-à-dire que par contre, il faut travailler sur la peur. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut être plus fort. Il faut se laisser imprégner par la vie. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais c'est une façon de vaincre aussi. Souvent, on le dit, c'est par l'énergie de son désir et de l'amour qu'on porte à la vie. C'est-à-dire que ça arrive à démystifier aussi un tout petit peu. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on parle de cette maladie. Comme il y en a d'autres, il y a d'autres circonstances dans lesquelles un être cher disparaît. Il faut ne pas avoir peur de regarder aussi les choses. Voilà, je pense que c'est une façon de vaincre. En vous écoutant, là, je regardais aussi vos expressions, votre regard. On se connaît pas plus que ça, on s'est parlé juste un petit peu avant. Voilà, vous souriez, c'est-à-dire que vous avez la force de vie en vous. Et comme vous le dites, ça continue, on le sait. Et il ne faut... C'est ce que le film essaie d'exprimer aussi. C'est-à-dire qu'il faut être là, il faut être présent, faut pas démissionner, faut pas non plus crier, avoir peur, il faut d'ailleurs aussi le rôle de la maman insuffle la vie
l'énergie
tout
à
le
tous,
temps,
à
tout
tous.
Le temps, tout le temps, c'est extraordinaire. C'est peut-être même elle qui en a le plus.
C'est sans doute ça, ouais.
Ouais, c'est aussi
celle qui insuffle l'énergie quitte à semer le chaos parfois mais qui
donne
est...
le courage aussi aux autres, c'est-à-dire que vous savez je pensais à une chose, une heure après, Pascal. Non, quand je dis qu'il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire, voilà, il faut non seulement vivre avec, et c'est ce que réussit aussi le film, c'est qu'on tombe pas dans le pathos parce qu'il reste dans la vie. Et c'est ce qu'il faut faire, moi, par expérience, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, voilà, quand ça m'est arrivé.
Alors, je sais que ça va être compliqué pour vous, Pascal, on va passer à la cascade des questions, c'est-à-dire questions courtes et réponses courtes.
On est foutu.
On
allez,
commence
j'y
avec
vais.
Tom Villa.
Vous avez touché à la radio, dans Radio Star, ça vous dirait d'en faire ou pas?
Beaucoup.
Très bien.
Albert Algout.
Votre insulte préférée?
I fuck you.
Ah bah d'accord.
Je l'ai dit en américain, voilà, pour les oreilles chastes. Voilà.
Marina.
Un petit bonheur qui vous met en joie pour le reste de la journée. Un petit moment.
Un lever de soleil.
Daniel.
Pascal, votre...
Il est parti dans la voix, c'est ça ?
Votre geste de beauté le matin au réveil.
Un geste de beauté, c'est surtout un geste de survie, c'est d'ouvrir les yeux pour y voir quelque chose.
Merci Pascal Demelon. Et on n'est pas tout seul, il y a Tanguy qui nous a rejoint, Daniel.
Oui, Tanguy Pastureau, bienvenue.
Merci.
J'avais une question à vous poser, Tanguy. Oui. Là, j'aimerais bien manger 5 Kinder Bueno avec un litre de Baileys.
Oui, mais ne le faites pas, Daniel. Ah bon ? D'abord parce que votre estomac se mettrait à fondre.
Pourquoi ?
Et ensuite parce qu'une étude américaine révèle que notre humeur dépend de ce que nous mangeons. Ah. Plus on avale de fruits et légumes, plus on est heureux. C'est ainsi, vrai. La vie d'Émeric Caron n'est qu'un long orgasme, celle de Depardieu, un abîme sans fond.
Merci Tanguy, on vous retrouve tout à l'heure pour développer tout ça, évidemment. On a hâte, mais pour l'instant, France Inter, il est midi. Retour de la bande originale, toujours sans Nagui, mais avec Marina Rollman, Tom Villa, Albert Algou.
Bonjour.
Dans quelques secondes, Tanguy Pastureau, et je suis toujours avec la douce Leïla Kadour Boudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous, c'est notre invité dans la bande originale, et Pascal Demelon. Pascal Demelon, qui nous fait le plaisir de venir nous présenter. Oui, vous pouvez vous déshabiller, Pascal, allez-y. Je crois que Marina appelle cela de ses voeux. Le rire de ma mère qui sera en salle le 17 janvier. Avec au casting Suzanne Clément, Sabrina Sevecou, Igor Van Dessel notamment, mais ce n'est pas tout. On pourrait aussi citer Mathis Bourg, Salomé Larouki, Karine May, Ludivine de Chastenay, Bertrand Combe, Carmen Ferland, et j'en oublie sans doute Grégoire Collin, Gilles Gneuse, Jean-Yves Chilot,
Michel Pitou.
Pitou était là, Pitou est venu aussi.
Et saluons le travail de Brice Pilote, qui était le chef. Brice Pilote.
Et la musique originale de Maxime Baudet, c'est bon, on y va. Et on rappelle quand même l'histoire de ce film, Le rire de ma mère, donc en salle le 17 janvier. C'est l'histoire d'Adrien, un petit garçon dont les parents sont séparés, qui continue à aller d'une maison à l'autre. Somme toute, avec assez de bonheur et de plaisir, les choses se passent bien. On trouve qu'il y a, voilà, je pense que la séparation se passe bien quelque part. Et on découvre que la mère d'Adrien est malade et qu'elle va mourir. Et comment le père, la mère, la belle-mère entourent cet enfant et essayent eux aussi de grandir avec cette histoire pour l'accompagner au mieux, pour s'accompagner au mieux, parce que finalement, il y a la peine de l'enfant, mais il y a la peine aussi du père, de l'ancien époux et même de la belle-mère. J'adore le personnage de Sabrina Sevecou. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre liste absolue, idéale. Vous avez coché donc Suzanne Clément, ça c'est fait.
Ouais.
Qui est-ce qui reste sur cette liste ?
Oh là là, vous avez le temps ou pas ? Non, mais il y en a d'autres, oui. Il y a aussi des camarades que j'ai croisés il y a très 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 longtemps que j'aimerais bien retrouver. Et puis, c'est difficile de les citer. Je peux le faire, hein, mais bien sûr, il y a des gens qui m'ont fait rêver. Il y a Catherine Deneuve, j'adorerais tourner avec... je l'ai fait. Eh oui, je l'ai fait.
Ah bah comme quoi ?
On peut avoir rien de la liste.
Avec Benoît Poulvorde, voilà, ça fait quelques années qu'on se croise et on a failli et ça se fait pas. Enfin, il y en a d'autres et puis il y a aussi ceux que l'on connaît un peu moins.
Oui.
C'est une liste, en fait, c'est une liste de cœur, c'est une liste de feeling comme ça aussi. Il y en a d'autres. Hein. Et si j'en rate quelques-uns, si je le cite pas, lui ou elle,
regardez
je vais
la
me faire
liste pour vous, mais en tout cas, Suzanne Clément, je comprends complètement après avoir vu ce film qu'elle puisse faire partie d'une liste de rêve.
Oui, on l'avait tous vu dans Mommy,
ouais.
Voilà, où elle était extraordinaire, ouais. Quoi, comme elle l'est d'ailleurs.
Époustouflante.
Oui, époustouflante. Ouais,
et
ouais.
Là, elle est encore dans un personnage qui est complexe. Est complexe, parce qu'on n'a pas été au fond de la psychologie de chaque personnage, mais ça vaudrait le coup. En tout cas, on vous laisse découvrir cette dimension-là qui est aussi importante au-delà du thème du film dans Le rire de ma mère de Colombe Savignac et Pascal Ralit. Premier film, donc encore plus de cocorico en termes de réussite. Parce que c'est étonnamment maîtrisé, au sens où on a la sensation que c'est le 15e film qui mène ensemble.
Ouais, c'est vrai.
On les sent un peu usés presque.
Ouais, un peu fatigués. Ouais. On se demande même si ça va pas être leur dernier film. On est en train de se poser la question. Non, mais ce que je veux juste rajouter rapidement, c'est que c'est comme ce qu'on disait auparavant, comme le témoignage de cette dame tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir des films qui touchent. Des
sujets de la vie. Vous savez, moi j'ai pour habitude de me faire autant plaisir en allant voir le dernier volet de La Guerre des Étoiles, mais j'ai besoin aussi de ce cinéma-là. Et puis on a une tendance à donner l'impression aux spectateurs, l'impression que voilà, il y a des films pour eux et d'autres pas pour eux. Ouais. Moi je sais que j'ai grandi en ayant la curiosité, mais qui m'a été aussi donné par des gens qui m'ont incité à être curieux et à aller voir des choses que je ne serais peut-être pas allé voir tout de suite, mais les distinguos qu'on fait parfois dans les genres de films, je trouve ça un peu dommage parce que ça nous empêche aussi de se faire beaucoup de bien en allant voir des films qui, comme ça, voilà, pourraient faire peur. Vous savez, on a
Ce qui compte, c'est de dire que Le Rire de ma mère, c'est du cinéma.
Oui.
Déjà.
Et en plus, c'est un vrai cinéma, parce que la réalisation est vraiment extraordinaire.
Voilà, donc c'est déjà l'occasion d'aller découvrir un film qui fait œuvre de cinéma, et en effet dans la thématique, et pas la thématique a priori la plus commerciale, et pourtant, je vous garantis qu'on en sort avec autant de plaisir que d'un film dit grand public. Voilà.
Lui n'est pas grand public, il n'est pas commercial non plus.
Il est venu se venger.
Il échappe à toute logique. C'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Et Tanguy, je ne sais pas, mais je me sens pas bien. Je me sens même un peu chafouin ce matin.
Oui, je sais, Daniel, vous n'avez pas l'air bien. Je le vois au fait que vous avez la même tête que d'habitude. Vous êtes comme ça, bougon, un peu sauvage, avec vos poils drus, vous ressemblez à un sanglier. Si vous allez flâner en forêt de Chantilly, un chasseur va sûrement vous abattre et accrocher votre tête au-dessus de sa cheminée, à côté de celle d'un cerf. Quand on vous dit bonjour, vous répondez ouais, c'est ça. Quand on vous demande ça va, vous répondez qu'est-ce que ça peut te foutre. Vous dégagez la convivialité d'un sommet de la dernière chance entre Israéliens et Palestiniens. Si le traiteur qui faisait le buffet n'avait prévu que du salami. Parfois, Marina, ici présente, me dit « D'abord, j'adore votre travail, maître. Mais deuxièmement, j'ai peur de Daniel Morin. La nuit, je rêve qu'il vient jusqu'en Suisse pour me manger. » Je réponds petite « T'inquiète, rien n'est irréversible. Demain, Jean-Luc Mélenchon peut devenir super sympa grâce à un mélange Poppers, Cointreau, Ciro, Néocodion. Franck Ribéry est capable de s'élever intellectuellement pour peu que sa femme lui ait offert pour Noël l'abécédaire de Petit Ours Brun. Et donc, Daniel est susceptible de s'ouvrir, telle une porte automatique de magasin, mais en moins moderne et sans trace de doigts puisqu'il refuse qu'on le touche. Ce qui explique qu'après 12 ans de France Inter, il soit toujours payé 25% de moins que nous. Il a la vie d'une femme. En effet, le fait que vous soyez ronchon, Daniel, dépend juste de ce que vous mangez. C'est ce que démontre une étude faite par des chercheurs américains qui n'avaient rien d'autre à chercher. Hein, ni leur clé, qui était dans la poche de leur blouson, ni l'amour, puisque tous les samedis soirs, des prostituées contre 50 dollars leur retirent leur slip en disant « Ah ouais, d'accord, donc là, c'est à moi de chercher. » Donc, ils ont observé des gens manger, qui des fruits, qui des burgers, qui ses crottes de nez pour ceux qui sont au feu rouge. Et sont arrivés à cette conclusion, nous sommes ce que nous mangeons. Exemple, ceux qui consomment des fruits et légumes, riches en antioxydants, ont une humeur obofixe, comme Kev Adams, qui enchaîne les navets et a la patate. C'est un acteur pot-au-feu. Et plus on vieillit, plus on a besoin d'antioxydants. Au début, c'est 5 fruits et légumes par jour, mais là, Gérard Collomb en est à 130 par demi-heure. C'est-à-dire qu'on bouffe des légumes pour éviter un jour d'en devenir un.
Alors moi, Tanguy, pendant tout le début de votre chronique, j'ai surfé sur le site de Santé Magazine.
Mais bien sûr, Leïla, parce que vous devez d'être en forme. Ici, à Inter, pas ni problème, on dégage personne. Moi, je fais rire 2-3 auditeurs sans repère et je sais que je vais faire 30 ans de boîte. Mais France 2, c'est un univers ultra concurrentiel. Vous trébuchez à 19h59 en vous rendant sur le plateau. Paf ! Il y a Delahousse, Bugier et Soto, les tout bifris de l'info, qui vous marchent dessus et à 20h lisent votre prompteur. Donc sachez, Leïla, que vous vieillissez. Comme moi, il y a encore 5 ans, ma boulangère m'appelait jeune homme. Il y a 3 ans, elle m'a dit monsieur. Là, elle me conseille à mon âge de prendre autre chose que des viennoiseries. Votre allure extérieure, diaphane, longiligne et éthérée, ne reflète pas la décrépitude intérieure de vos organes usés. Et votre corps forme des radicaux libres, qui diffèrent des radicaux de gauche par le fait qu'ils sont nombreux. Or, trop de radicaux libres provoquent des perturbations dans le cerveau. Vous vous mettez à dire des trucs comme « J'adore vivre à Paris, c'est super propre » ou « La prod du dernier album de Kinvey est très léchée, il n'y a pas à dire, c'est du beau boulot ». Et à terme, si on laisse les radicaux libres faire le spring break dans notre cerveau, il y a des dangers de détresse morale. Hein, concrètement, on a l'entrain de l'enfant qu'auraient eu Jean-Pierre Bacri et Isabelle Huppert s'ils avaient conclu dans les WC du Théâtre du Châtelet lors de la soirée des Césars. C'est pour ça qu'on voit tant de seniors déprimés. Jean-Yves Le Drian, par exemple, à 20 ans, il riait, on le croisait à Rennes, rue de la Soif, en train de hurler « Patron, à boire ou je tue le chien ». Il dansait la Macarena dès 74. Et là, il passe sa vie à voyager. Il est aux affaires étrangères et il est aussi Mossad qu'un bulletin météo d'un 22 janvier au Danemark. Ces radicaux libres ont pris le contrôle de son corps. Et au lieu de manger des fruits et de se dire dire non, je ne sombrerai pas dans la folie. J'ai vu ce que ça a fait à Van Gogh et à Britney. Il s'est laissé faire. Alors, à noter que les chercheurs à l'origine de l'étude ajoutent que pour être tout à fait heureux, il faut aussi faire du sport. Oh. Hein, ah oui. C'est vrai. Ah bah, regardez Deschamps au 98. Il joue, il est tout content. Aujourd'hui, il reste sur le banc. Quand il cause en conférence de presse, on dirait qu'il va se suicider en ouvrant un dictionnaire sans illustration. Donc, Daniel, c'est simple. Oui. Un pamplemousse, 10 pompes. Un pamplemousse, 10 pompes. Et dans 8 jours, vous êtes Alessandra Sublet, pliée de rire de 8h à 22h. C'était tout con.
Wow. Bravo, Tanguy Pastereau.
La bande originale.
La bande originale avec Pascal Demolon.
Le rire de ma mère en salle le 17 janvier avec Suzanne Clément, Sabrina Sevecou et Igor Van Dessel. Pascal Demolon, je me demandais, dans ce film, en fait, il y a une forte présence artistique, que ce soit Adrien qui veut s'initier au théâtre, que ce soit le personnage qui incarne votre compagne dans le film qui est peintre, artiste peintre. La mère a l'air d'être un individu assez créatif et fantasque. Vous-même, avec cette immersion dans les jeux vidéo, comme on a parlé tout à l'heure, Tom Villa.
Vidéoclub,
mais on sent une sorte d'amour pour quelque chose d'un peu désuet, quelque chose qui est passé, une sorte de dinosaure, vous le dites, hein, encore un dernier bastion, comme si l'art était capital dans ce moment-là de la vie.
Oui. ça me fait penser à un truc, mais ça n'a rien à voir, pardon.
Là, c'est... On arrête avec le rideau à paillettes.
Si vous dites Hélène, la réponse est oui, mais quelle est la question? Donc, j'y reviens. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est lié à la sensibilité aussi des réalisateurs, Pascal et Colombe. Et puis, parce que oui, c'est omniprésent. Puis, une façon aussi de regarder la vie avec créativité, avec tendresse. Et pour en revenir au vidéoclub à Paris, je voyais que vous étiez en train de vous endormir.
Non, pas du tout. Tout va bien. Dites-moi, Pascal.
C'est le seul à Paris, le dernier bastion.
C'est celui qui est rue Colincourt.
Celui qui est juste en face du Luxembourg. Et il est extraordinaire. Vous trouvez là des pépites, des choses que vous ne trouvez nulle part ailleurs.
Voilà.
Des films, voilà.
C'est dramatique. Moi, j'en avais un rue de Poitou à côté de chez moi qui a fermé.
Oui, c'est fini. Il n'y en a plus.
Voilà. Ils vendent des kawaii à 800 euros maintenant.
Ah, voilà.
Ah ouais?
Non, mais c'est un magasin de hipster,
là. On est dans un quartier où tout d'un coup le mètre carré devient intéressant pour le commerçant. Je me demandais, vous, quelle est la dimension artistique dans votre vie, au-delà de votre pratique, de votre métier? Est-ce que vous êtes un fondu de cinéma et que vous allez en salle souvent?
Ouais.
Concerts, musique,
alors,
comment ça s'organise?
Concerts un peu moins ces derniers temps, mais sinon les musées, sinon, je reste vigilant, attentif et curieux. La musique aussi, c'est très important pour moi, je le disais, et c'est toujours cette curiosité insatiable, qui donne aussi de l'énergie, quoi.
Une vie sans culture, c'est une vie morne.
Ouh là là, oui.
Ce serait compliqué.
Ouais, ce serait compliqué, ce serait triste, ouais. Oh, je tiendrai pas le coup longtemps. Franchement, je veux bien le tenter, si vous voulez, mais j'ai peur.
Mais j'ai peur, je souffre.
Non, mais j'ai peur, puis bon, c'est aussi, c'est pour tous. Sans démagogie, c'est vrai que c'est une façon aussi de traduire les choses du quotidien, de la vie, d'une autre façon. C'est ça qui est extraordinaire. Voir un tableau de Van Gogh, c'est se dire, ça, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu comme ça. Et c'est beau la manière dont il le voit. Et c'est fou cette espèce de léger décalage qu'il y a entre la réalité et la perception d'un artiste. C'est-à-dire que ça nous rend aussi le quotidien beaucoup plus riche.
C'est comme les fruits et légumes, quoi, en fait.
Oui, c'est exactement pareil. J'étais inquiet quand il a dit qu'il en fallait tant pour avoir de bonne humeur. Ouais.
Vous venez de l'entendre, quand il voit Van Gogh, il se dit « Ah, mais tiens, je l'avais pas vu comme ça ». C'est Pascal Demolon qui est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Daft Punk, Get Lucky, à suivre le rêve de John Jack Lang.
Ça aussi,
vous êtes
c'est
bien
la joie.
Sur France Inter. Allez, grande joie, tout le monde se lève.
Joie.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
yours and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Punk avec Get Lucky sur France Inter dans la bande originale. Nous sommes toujours avec Pascal Demolon pour ce magnifique film, Leïla.
Le rire de ma mère en salle le 17 janvier.
Et lui, il n'attendra pas le 17 janvier non. pour venir nous parler et nous faire pleurer. Ah, c'est le rêve de Jean-Jacques Lang.
J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Alors, si vous voyez aussi joyeux, très cher Daniel, oui. très cher Leïla, oui. très cher Pascal Demolon, qui parlait si bien culture, c'est parce qu'au terme de cette première semaine de l'année 2008, semaine de 18. Diète, 2018, oui, je sais, j'étais un peu en retard. À l'époque, j'avais un poste, c'est pour ça. Semaine de diète placée sous le signe de la calcésaire, ascendant citrate de bétaine, ouais. je vais renouer avec la teuf. En effet, dimanche, c'est l'épiphanie. Fanny, mes amis, l'occasion pour moi d'organiser avec mon cousin Jack, car je ne suis que son cousin, issu de Germain, une méga soirée, pole dance, mousse, galette and poppers au Banana Café, où il y a des rilots pailletés évoqués par Tom tout à l'heure. Bref, cette année encore, je sens que les rois, je vais bien les tirer. Et rien que d'y penser, ça me rend tout alangui, et quand je suis alangui, je dors, et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je errais dans les couloirs de France Inter quand mes narines furent titillées par une bonne odeur de galette. Comme aimanté olfactivement, ensorcelé par ces senteurs, je me retrouvais dans le bureau de la bande originale. Soudain, un homme assis dans un fauteuil roulant me barra le passage.
« Ah, toi, je le sens, tu viens pour la galette. Mais, tu sais, évoquer la galette des rois, ça me rappelle les circonstances épouvantablement tragiques qui entraînèrent l'effroyable handicap dont je suis hélas atteint. Mais, Maréchal Ganache, j'espère qu'en 2018, et non en 2008, comme je disais connement tout à l'heure, comme en 2018 comme en 2017, vous n'allez pas nous refaire le coup du vieux con qui radote. Il s'était en 1954, et patati et patata, ta gueule. Je peux juste dire que c'était la nuit de l'épiphanie, à Gang Bang Phoc, nous étions encerclés par les Viettes. Malgré un terrible siège, j'avais tenu à ce qu'on tira les rois avec mes légionnaires du premier étranger de cavalerie. le plus brave au combat.
Oui, allez-y,
quand
allez-y.
Je... ding, 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 notre cuistot tonkinois avait préparé une galette avec des ingrédients de fortune. Farine de riz moisi, œuf de crapaud buffle, et pour remplacer le beurre, la graisse à Rangers. Cher maréchal, j'ai hâte de savoir comment vous l'avez fourré. Par derrière. Ah, c'était bon, vous savez. 2 ans loin de la maréchale dans la jungle, j'avais les goyaves au fond du filet. Oh, mais non, voyons, non, cher maréchal, je ne vous parle pas de votre fidèle ordonnance. Ding, 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 ding. Ah oui, la galette. Alors on l'a fourrée avec de la crème de marron périmée. Et quand on l'a sortie du four, elle avait une jolie croûte jaune dessus, avec un appétissant nappage à la crème de marron derrière. Mais voyons, cher maréchal, je ne vous parle pas de votre fidèle ordonnance. Ding, 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 ding. Ah oui, oui, la fève. Au premier étranger, la tradition veut qu'en guise de fève, on cache dans la pâte une dent prélevée sur la mâchoire d'un copain mort tombé au champ d'honneur. Mais comme on n'avait pas encore de perte, je me suis arraché moi-même une de mes dents en or avec des tenailles. Et alors, maréchal, je boue d'impatience. J'ai eu la fève. Mais je l'ai avalée par mégarde. Plus tard, au moment de l'expulsion, j'ai entendu des craquements et senti une douleur atroce. En fait, j'avais oublié que ma dent cachait une capsule de cyanure qui avait été posée par le dentiste majeur de la Légion, Joseph Mengele. J'allais mourir déchiré et empoisonné. Ah, j'en chiale encore. Le cri de douleur du maréchal Ganache m'a réveillé et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vince vous le raconter dans la bande originale. Bonne fin à l'émission.
Merci Gigi.
Le rire de ma mère, Pascal Demelon. Je ne vous ferai pas commenter cette chronique de Jean-Jacques Lang.
Elle est restée dans le fruit.
Moi, je le remercie pour ce moment de poésie. Voilà.
La culture,
quand je vous disais qu'il y en avait partout.
Voilà. Il y en a surtout dans le rire de ma mère. Elle est un peu différente et je vous garantis que vous allez l'apprécier si vous franchissez la porte du cinéma avec Suzanne Clément, Sabrina Sevecou et Igor Van Dessel, entre autres. Pascal Demelon, j'ai envie de vous demander quand est-ce qu'on vous revoit. C'est quoi les projets? C'est quoi la suite?
Un de ces quatre.
Laissez-moi
réfléchir.
Vous faites quoi après l'émission, par exemple?
Alors, eh bien, je vais prendre un train. Ça, c'est merci pour me permettre de faire un petit enchaînement comme ça. Je vais prendre un train pour aller travailler.
D'accord.
Travailler
Qu'est-ce
du côté
vous...
de Strasbourg.
Qu'est-ce que vous tournez
une
en ce moment?
Une série pour France 3. Voilà, une mini-série.
Ouais.
Voilà. Et voilà, où je vais essayer d'incarner, ça va pas être simple, un personnage pas très en forme, voilà, qui a perdu l'habitude de prendre des fruits et légumes, voilà, comme il fallait pour être en pleine forme, qui est un peu fatigué, qui est un peu alcoolique, et qui a, voilà, des soucis. Donc, mais ça va être très drôle, hein, vous
D'accord.
inquiétez pas, voilà, on va se marrer.
Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de vous revoir encore sur grand écran dans un rôle.
Et même ici, à chaque fois, c'est un plaisir.
Mais oui, c'est toujours un
Merci
plaisir, Pascal Lemelon. Il est d'ailleurs temps de vous présenter nos excuses, sincèrement.
Des excuses à vous et à beaucoup de monde. Désolé pour les mots, les phrases que Pascal Demelon a cherché durant toute l'émission. Bah, figurez-vous, je les ai eu au téléphone à la pause. Il n'était pas dispo ce matin. Alors, a priori, ils seront de retour la semaine prochaine après Strasbourg. Désolé pour Pascal Demelon, cette fois, qui a découvert ce matin que personne, mais absolument personne, ne s'attendait à ce qu'il soit bon dans ce film.
C'est pas vrai.
On l'a dit. Franchement, Pascal, j'ai pas de mots. Désolé pour Pascal Demelon. J'ai eu Suzanne Clément à la pause. Elle aussi, décidément, très occupée à la pause. Elle aimerait que vous arrêtiez de la mettre dans sa petite liste d'actrices et par la même occasion, vos SMS aussi cochons.
Oh mon Dieu, arrêtez, il y en a qui vont le croire.
Merci Pascal Demelon. Bah oui, on espère. On est en train de vous refaire une réputation, vous allez voir.
On se retrouve lundi.
On se retrouve lundi avec
plaisir. Avec le retour du petit
Nagui.
Eh oui, reviens.
Vous l'embrasserez pour moi?
On n'y manquera
pas. Ou pas. Avec Vincent De Dienne également. Laure Calimi.
Calimi.
Calimigène?
Calamitigène, Vincent De Dienne, Laure Calimi pour du théâtre.
Allez, France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand, c'est tout de suite. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Merci Daniel, merci Leïla, et à lundi pour la bande au complet.